Bonsoir à toutes et à tous. Anastasie Tubiesh avec vous, ravie de vous retrouver pour cette demi-heure interactive. Ce soir, dans À votre avis, nous allons réfléchir à un sujet qui dit bien l'un, qui est l'un des paradoxes les plus frappants du continent. La journée de l'enfant africain a lieu la semaine prochaine, le 16 juin. VOA Afrique prend une semaine d'avance pour réfléchir à une catégorie bien spécifique d'enfants africains, ceux qui sont dans la rue et qui souvent deviennent la proie de prédateurs et parfois sombres dans la délinquance. Alors, talibés, Kadogo, enfants de la rue, microbes, selon leur pays, les noms changent, leur réalité reste la même. Ils sont au banc de la société. Et s'ils survivent, c'est grâce à des petits boulots. Et beaucoup tombent dans la délinquance, la prostitution ou la drogue. Leur espérance de vie, 25 ans. Et leur profil aussi diffère. Certains sont dans la rue parce qu'ils sont orphelins, d'autres sont victimes de la guerre, du sida ou de la pauvreté. Ou encore, ils fuient les mauvais traitements de leur famille ou de sectes religieuses. Selon une étude de l'UNICEF datant de 2011, ils étaient 120 millions dans le monde, 30 millions en Afrique, et nous parlons, quand nous parlons d'enfants entre 4 et 16 ans. Vous vous souvenez peut-être du destin de Rachel Mwanza, nous en reparlerons tout à l'heure, mais d'ores et déjà au standard de VOA Afrique, vous êtes nombreux à vouloir donner votre opinion, et ça tombe bien, c'est le but de À votre avis. Faites comme Adjara au 001 202 205 263 ou bien laissez-nous un message sur la page Facebook de VOA Afrique. Bonsoir. Allô, Adjara ?
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, soyez le bienvenu, Adjara. Comment allez-vous et d'où où êtes-vous ?
Oui. Oui, je vais très bien. J'espère que ça va au moins deux fois qu'on se trouve dans les mêmes antennes.
Ah !
De VOA Afrique. Voilà, je suis au Mali, à Bamako.
D'accord, très bien. Alors au Mali, il n'y a pas de talibé, mais il y a une version malienne.
Oui, effectivement, madame, à mon avis, je pense que c'est un phénomène qui roule partout dans le monde aujourd'hui, surtout dans mon pays au Mali. Il faut imaginer, j'accuse les parents aussi, parce que par rapport à le manque de l'éducation à leurs enfants, je n'ai pas mis un enfant au monde et puis il va refuser de suivre sa condition. Donc, vraiment, c'est une fléau que vraiment tous les parents doivent prendre leurs mesures pour convaincre les enfants et ne pas suivre leur éducation. Il y a beaucoup d'enfants qui roulent dans la rue ici aujourd'hui, surtout, et dit que non, ils vont mettre leurs enfants dans l'école coranique, mais ils se promènent dans la rue pour demander de les manger à les gens. Avec l'argent, ils vont dire que non, ils vont aller donner leur marabout parce qu'ils vont fait étude avec eux. Donc, à mon avis, je pense que c'est une fléau que tous les parents doivent considérer leurs enfants comme c'est mon propre enfant. Donc, cette fléau doit mettre fin aujourd'hui. On n'est pas dans le temps d'avant. Donc, vraiment.
Alors, vous avez, Jara, vous avez évoqué les talibés. Expliquons à nos auditeurs et auditrices qui ne savent pas ce que sont les talibés, ce que c'est. Ce sont des jeunes, des enfants qui mendient. Et ce sont des élèves, en fait, d'Ara, c'est-à-dire d'école coranique. Et ils dépendent de l'autorité d'un maître qu'on appelle marabout. Et c'est ce maître qui les envoie mendier pour gagner de l'argent. Et c'est une pratique observée au Sénégal. Il y a une version de ça un peu au Burkina Faso, en Guinée, qu'on appelle les garibous. Oui. C'est la même chose.
En français, on appelle les mendiants. Mmh. Donc, à mon avis, vraiment, je pense que tu n'es pas mis ton enfant dans une école coranique que à chaque fois, les marabouts, ils vont l'envoyer en ville pour demander les choses à des gens. Donc, tu dois prendre toutes les responsabilités pour s'occuper des enfants. Par rapport à ça, dans les rues, il y a beaucoup d'enfants et deviennent bandits voleurs dans les rues. Donc, je pense que tout le monde doit prendre les responsabilités en Afrique ici pour lutter contre cette fléau.
C'est bien entendu, Diarra, vous insistez sur la responsabilité des parents et votre appel et votre témoignage a été bien reçu. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
Okay,
vous êtes où au Mali, à Bamako? Je vais partir du coup. D'accord. Alors, bonne soirée à Bamako. Et nous en profitons pour saluer nos auditeurs et auditrices. À Bamako, les témoignages se suivent aux standards de VOA Afrique et ne se ressemblent pas. Voyons ce que nous dit du sujet de ce soir, Diallo Tierno. Bonsoir.
Oui, bonsoir la VOA.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ça va. Alors, quel est votre prénom? C'est Diallo ou c'est Tierno?
Bon, mon prénom c'est Diallo. Je m'appelle Diallo Tchernoma.
Très bien. Alors, dites-nous Diallo, vous d'où nous appelez-vous?
À partir de Conakry, l'habitude d'émission depuis plus de 3 ans.
Formidable. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre sujet ce soir? Ces enfants des rues, qui évidemment, selon les pays, changent de nom, et selon les cultures, mais qui restent une réalité intéressante. On est quand même sur, on parle d'un continent pour lequel la solidarité, la famille sont des valeurs très importantes, et pourtant, on ne peut que constater le nombre grandissant d'enfants dans les rues. Comment vous comprenez ce phénomène?
À mon avis, c'est très regrettable d'abord, mais ça se dit aussi à leur chômage de leurs parents et à la base des souffrances de ces enfants. Les parents envoient leurs enfants dans les villages reculés où il faut travailler énormément et bénéficier quelques cours coraniques ou apprendre le métier. Moi, personnellement, je suis un témoin oculaire car j'ai vécu pendant les années, lorsque j'avais que 6 ans, 10 ans, j'ai vécu plus de 6 ans dans un village où il y avait que grand-père et la grand-mère. Mais c'est vraiment déplorable. C'est pas facile pour un gamin qui cherche d'être quelqu'un de main. C'est pas du tout possible de faire le jeter de moment où le monde se mondialise. C'est une réalité. Il y a des réalités africaines aussi qui nous imposent. Mais c'est pas du tout facile de mettre fin à ça aussitôt. Car ce sont des pratiques qui ont existé depuis toujours.
Mais oui, mais alors, mais attendez, Diallo, on ne peut pas, au motif que ça a toujours existé, s'asseoir et puis se dire que finalement, bon, bah, puisque c'est comme ça, ça n'a qu'à rester comme ça, non?
Oui, je le sais très bien, mais imaginez qu'un père de famille aussi sommaire, ou bien qui est très mal payé, au moins de 200 dollars US, qui a plus de 8 à 10 enfants, quelle solution? Mais voilà,
alors du coup, je suppose que vous comprenez ceux parmi nos auditeurs, Diallo. Du coup, j'imagine que vous comprenez ceux qui parmi nos auditeurs renvoient la responsabilité aux autorités et aux responsables politiques.
Oui, les autorités, d'une part, sont des responsables, mais où est leur responsabilité réellement? Moi, je parle du chômage. À partir du moment là où les parents sont très mal payés, d'autres sont des sommaires, et puis les mariages, polygamie existent partout aussi. Tu vois quelqu'un qui n'a même pas d'emploi, il marie à 4 femmes chez nous en Afrique, il a plus de 15 enfants alors qu'il n'a pas de travail à faire. Et puis il y a d'autres...
Mais alors ça n'est pas la responsabilité des... Mais dans ces conditions, ça n'est pas la responsabilité des politiques, là. Ce sont les individus qui doivent se prendre en main et savoir jusqu'où ils peuvent aller, aussi bien dans les mariages que dans se reproduire et fonder une famille, non? Quand on n'a pas de moyens, est-ce que la première chose à faire, c'est se marier?
Oui, tout à fait, mais les réalités africaines, vous savez... C'est l'âge qui compte, pas les moins. Une fois que tu es âgé plus de 30 ans, 40 ans, la belle famille ou bien les autres familles va t'imposer une cousine à un cousin. C'est tout à fait devenu coutume.
Très bien.
En Afrique,
alors c'est entendu. Merci
je
beaucoup.
Sais qu'il y a la base.
Merci Diallo. De nombreux auditeurs veulent témoigner. On a bien entendu que pour vous, il faut aussi que bon, les individus se prennent en main, mais il y a un fort élément culturel que vous venez souligner par rapport à l'auditeur précédent qui lui parlait de la responsabilité individuelle. Vous, c'est aussi un fonctionnement africain qu'il faut peut-être remettre en cause. C'est un paradoxe intéressant du continent sur lequel nous échangeons aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, les enfants des rues en Afrique, au 001 202 205 26 33 ou sur notre page Facebook. Dites-nous ce que vous en pensez, comment vous l'expliquez venant d'un continent sur lequel l'hospitalité et la solidarité sont des valeurs cardinales. Et eux ont leur mot à dire, eux ce sont nos auditeurs au standard. Et on va commencer avec Bakary Keïta. Bonsoir.
Ah, bonsoir.
Comment allez-vous, Bakary?
Ah, je me porte très bien.
Alors, dites-nous, comment comprendre que le continent de la Teranga, de la joie de vivre, de la famille avant tout, accepte comme ça le nombre grandissant de ses enfants, et des enfants, quand je dis enfants, vraiment, certains ont 4 ans, peut-être d'autres plus jeunes encore, dans les rues.
Bon, c'est déplorable. Moi, je crois qu'il y a de cela quand même quelques mois, hein, le Sénégal avait peut-être voté une loi pour...
ramener les enfants talibés dans leur famille, absolument.
Très bien, très dans la rue, quoi. Il faut voir. Moi, je crois que cette acte quand même doit être suivi par les autres pays, notamment vraiment le Mali. Moi, je crois que vraiment la mendicité, l'exode rural, vraiment le trafic des enfants, surtout la déperdition scolaire, tout ça, ça touche vraiment les enfants. Les enfants, quand même, sont des couches vulnérables, alors qu'ils constituent vraiment la pierre angulaire du sous-développement. Ce sont ces enfants qui sont appelés vraiment à assurer la relève. Donc, souvent, les parents, vraiment, c'est dû vraiment, ces phénomènes-là sont dus souvent à la pauvreté des familles, la misère, et surtout l'ignorance vraiment des familles. Moi, je crois que l'autorité aussi doit prendre des mesures, ils doivent vraiment essayer vraiment de sensibiliser vraiment les parents. Parce qu'en Afrique ici, la plupart de la population est pauvre. Donc, l'autorité doit prendre des mesures, ils doivent vraiment essayer vraiment d'instaurer vraiment un dialogue franc entre lui vraiment et les familles, là, vraiment les sensibiliser pour dire que vraiment l'enfant, sa place vraiment c'est dans les écoles. Et vraiment, ils doivent vraiment
suivre l'éducation
pour assurer vraiment la relève.
Merci beaucoup, Bakary Keïta. On va continuer de prendre les réflexions, les témoignages, les éclairages de nos auditeurs. Très bonne soirée à vous. Bonsoir, Youssouf Ouedra Ogo. Allô? Allô? Est-ce que Youssouf est avec nous? Faites comme nos auditeurs, hein. Nous avons encore un petit quart d'heure à passer ensemble au 001 202 20 52 63. 001 202 20 52 63. Il semblerait qu'on ait retrouvé Youssouf. Est-ce qu'il est avec nous? Bonsoir.
Ah oui, bonsoir. Ah. Je suis là.
Bonsoir, comment allez-vous?
Oui, ça va parfaitement.
Alors, vous avez entendu hein, les précédents auditeurs, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des appels, les choses s'affinent. On a commencé avec un auditeur qui insistait sur la responsabilité individuelle, le second insistait sur le fait que, bon, tout ça est le fruit de pratiques finalement ancestrales en Afrique. Et un troisième, le précédent, celui qui vous précédait, lui voyait les choses de manière multifactorielle et distribuait un peu les responsabilités, aussi bien les parents que la société, que les responsables politiques. Quel est votre point de vue à vous?
Écoutez, moi je pense que ce phénomène est malheureusement une triste réalité qui remonte aussi bien dans la société que même au sommet des États africains d'une manière générale. Et moi je dis que pour ce qui est des sources, on peut entre autres dénoncer une certaine exploitation traditionnelle, culturelle ou encore religieuse est aussi dépassée. Autrefois, par exemple, l'effectif d'une école coranique représentait une main d'œuvre pour le maître coranique à l'image d'une autre interprétation de la polygamie dont on en parle ici. Alors, ces différents aspects sont à étudier de près, mais aussi les conditions sociales des parents qui très souvent se laissent consoler par le bonheur de la fécondation sans en mesurer les responsabilités à assumer dans un monde de plus en plus en panne de solidarité, comme c'est le cas aujourd'hui partout en Afrique, où cette solidarité-là peine à s'exprimer du fait de la misère, des difficultés sociales, de nos gouvernants qui peinent à assumer leurs responsabilités, qui peinent à tenir parole vis-à-vis de tout ce qui est mis en place comme politique de développement, comme politique sociale. Et tous ces aspects-là, quand on assemble ces ingrédients, je pense que les enfants vont malheureusement rester pour longtemps dans leur rue. Il ne suffit pas de voter des lois.
Donc vous êtes plutôt pessimiste. Vous ne voyez pas la fin de ce phénomène arriver. Youssouf?
Oui, Youssouf.
Donc je vous disais, vous êtes plutôt pessimiste. Vous ne voyez pas la fin de ce phénomène arriver.
Je pense que la fin serait quand même difficile à sonner.
Alors la diminution, au moins.
nos gouvernants sont, n'est-ce pas, collés à cette mendicité professionnelle ou institutionnelle. Et je pense que ce phénomène va beaucoup perdurer ici en Afrique. Tant que on ne mesure pas l'ampleur, on ne prend pas nos responsabilités aussi bien chez les politiques que chez les parents.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, Youssouf, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous pour que les parents, aussi bien que les politiques, mesurent l'ampleur des dégâts?
Je pense qu'il suffit de regarder les conditions du...
Allô? On a perdu Youssouf?
Bon, l'école obligatoire pour des parents qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts des...
Allô? Là, vous êtes en train de décrire le phénomène. Moi, ce que je vous demande, c'est à votre avis ce qu'il faudrait pour que les parents prennent conscience des dangers que vivent leurs enfants quand ils les confient comme ça, parce que c'est ce qui se passe dans le cas des talibés. Soit les enfants n'ont pas de famille, soit ils en ont, et c'est une démarche d'humilité. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les parents prennent conscience que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire? Bon, on a perdu Youssouf. Espérons qu'on le retrouvera avant la fin de l'émission. Un autre auditeur est avec nous. Allô, bonsoir. Zoubéou, est-ce que vous êtes là? Décidément, les dieux de la communication ne sont pas avec nous ce soir. Zoubéou? Bon, ça ne fait rien. On va attendre que Zoubéou soit disponible. Mokhtar, peut-être, est avec nous. Bonsoir. Est-ce que Mokhtar est là? Mokhtar n'est pas là. Alors, le temps que nos contacts et nos canaux puissent se mettre les uns en face des autres, je voudrais vous parler d'une jeune fille qui a défrayé la chronique, qui a été distinguée et qui était une enfant des rues. Elle s'appelle Rachel Mwanza et elle est d'origine congolaise de Kinshasa. Et Rachel a été repérée dans la rue par une équipe de tournage belge, dans la rue où elle vivait, par une équipe de tournage belge, a participé à ce premier film et ensuite a été repérée par un réalisateur canadien et a été le rôle principal d'un film qui s'appelle Rebelle, paru en 2012. Et Rachel a reçu l'ours, c'est un prix très prestigieux, l'ours d'argent de la meilleure actrice pour son rôle dans Rebelle, le rôle d'une fille enfant soldat. Et voilà, et donc c'est comme ça que le monde entier a fait connaissance avec cette jeune fille très étonnante. J'ai eu la chance de l'interviewer quand elle était de passage à Paris. Et elle raconte qu'au départ, elle venait d'une famille aisée et tout se passait bien. Ils étaient 6 enfants. Et puis le père a progressivement perdu son emploi. La situation familiale a commencé à péricliter. La mère est partie travailler en Angola. Et la grand-mère, superstitieuse, a cru ce que certaines âmes bien inspirées ont dit, à savoir que Rachel était une enfant sorcière, et donc a jeté Rachel à la rue, et ça a été le début d'une errance dans les rues pendant 4 ans. Elle me racontait comment elle a dû aider une amie à elle à coucher dans la rue, comment elle a appris à essayer d'éviter les prédateurs. Elle n'a pas toujours réussi d'ailleurs à les éviter. Et comment elle a survécu. Elle est même l'auteur d'un livre, d'une autobiographie qui s'appelle « Survivre pour voir ce jour ». Et alors Rachel Mwanza est un témoignage parmi tant d'autres. D'autres aussi se sont mis à écrire. D'anciens enfants soldats ont comme ça livré leur témoignage. On me dit dans l'oreillette que Claude est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Soyez le bienvenu, Claude. Où êtes-vous en Afrique?
Oui. Moi, je suis à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Au Burkina Faso, au pays des hommes intègres.
Oui, oui.
Alors, est-ce que au pays des hommes intègres, il y a des enfants dans les rues aussi?
Si, bien sûr. Il y a des enfants dans la rue. Surtout, il y a des enfants qui quittent les villages pour venir à Ouagadougou.
Oui.
Dans la grande capitale pour chercher du travail. Donc, ils n'ont pas rien de cause. D'autres restent dans les rues avec des petits-enfants qui étaient déjà là, se promènent avec des boîtes pour commander. Et la nuit, ils dorment sous les immeubles, devant les immeubles, dans les coins un peu noirs. Donc, ils sont trop au Burkina, à Ouagadougou ici.
Comment sont-ils considérés par la population, Claude?
Bon, on les marginalise comme on les dit le plus souvent. Ils ne sont pas très, très bien pris en charge par la population. Certaines personnes qui ont pitié d'eux, des fois, quand ils viennent demander, on leur donne 100 francs, 50 francs, 25 francs comme ça, pour qu'ils puissent manger, quoi. Mais dire que cet enfant souffre, je vais le prendre en charge là, bon, je ne vois pas, à part les associations qui essaient de les ramener à la raison, quoi. Pas des petits travaux, des enseignements, on les donne, quoi. Oui. Mais il y a les talibs, bon, il y a les marabouts qui essaient aussi de les récupérer, qui essaient de récupérer les petits-enfants dans les villages, soit disant qu'on va les enseigner l'arabe, et ils les amènent à Ouagadougou. Donc, chaque vendredi que les enfants vont sortir, chaque enfant a droit à amener 500 francs pour le marabout.
Il doit rapporter 500 francs à la fin de la journée, voilà, pour le marabout.
De l'argent, oui. Il y a d'autres pour 1000 francs qui amènent pour le marabout.
Au moins, alors, Claude, précisons qu'au départ, l'idée, c'était d'apprendre, oui, aux enfants l'humilité. Voilà. Et de savoir, voilà, être au plus près de l'humilité la plus parfaite. C'était une démarche spirituelle, oui, au départ, qui a été dévoyée. Oui. On s'en aperçoit aujourd'hui puisque le Sénégal, en juin dernier, a décidé de, oui, ramener les enfants qui ont une famille dans leur famille. On parle des talibés.
Oui, oui. Bon, moi, je pense que c'est ce que je vous disais, chaque enfant, maintenant c'est pour le marabout que les enfants là sont là. Ce n'est pas l'idée de départ que les enfants sont là maintenant. Regarde. Une fois que tu t'habitues à la ville, même si on veut te ramener au village chez tes parents, une fois arrivé là-bas, tu vas revenir. Tu vas essayer de revenir clandestinement pour pouvoir vivre. Regarde. Pourtant, dans les grandes villes, là, pour vivre, il faut vraiment être à la hauteur, quoi.
Alors, je vais vous poser la question que j'ai posée à tous les auditeurs, oui, Claude. Comment, oui, expliquez-vous, alors que nous sommes le continent qui se targue d'être solidaire et amoureux de, oui, la vie et contre les, oui, injustices et qui, oui, pour qui la famille est importante, comment expliquez-vous, oui, qu'un tel phénomène soit possible,
oui. Bon, ça, c'est...
Possible et grandissant.
Côté musulman, c'est peut-être c'est pour que les enfants apprennent l'humilité, la sagesse du prophète.
Bon, on a vu que ce principe a été dévoyé. Alors, chez les non-musulmans, parce qu'il n'y a pas que chez les musulmans qu'on voit ces enfants tout, oui, seuls dans les rues, laissés à eux-mêmes.
Chez les non-musulmans aussi, je dirais que c'est la fuite de responsabilité. Si c'est déjà même ton papa t'a mis au monde, il n'a pas les moyens pour te nourrir. Toi aussi, tu vas essayer de sortir un peu à l'âge de 5-7 ans. Ce que tu gagnes au dehors. Au dehors, on ne te dérange pas. On ne te fait rien. Tu es là, tu vis dans la vie, c'est la vie qui va t'éduquer. Donc, c'est la fille de responsabilité de certains parents qui font que les gens se retrouvent dans les rues comme ça.
Et voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. C'est ce que vous constatez, vous, au Burkina, oui, Faso.
C'est la fille de responsabilité des parents.
Alors, c'est intéressant parce que vous ne faites pas du tout intervenir, oui, le politique.
Pardon ?
C'est intéressant parce que vous ne faites pas du tout intervenir le politique. Vous ne rejoignez pas ceux parmi nos auditeurs, aussi bien sur Facebook qu'au téléphone, qui nous disent « c'est aussi, oui, la faute des politiques ». Pour vous, non, c'est vraiment les parents d'abord.
Oui, les parents, si c'est les parents qui les mettent au monde. Les politiques, c'est pour après venir les utiliser à leur fin. C'est-à-dire pour chercher la popularité, un politique peut venir appeler la presse pour qu'il vienne intervenir, on va faire sortir son nom. Mais toi, ton parent, toi papa de l'enfant, maman de l'enfant, surtout les papas, il faut te mettre dans la tête que c'est ton sang qui circule au dehors comme ça. C'est toi-même, une partie de toi-même qui est au dehors, qui est en train de pavaner, de faire des trucs qui ne sont pas catholiques vraiment. Ça peut l'amener au vol, bon, à l'agression de certaines personnes.
Oui, comme on le voit en Côte d'Ivoire, hein, ce qu'on appelle ces enfants qu'on appelle les microbes et qui, voilà, n'hésitent pas à aller jusqu'à tuer, qui agressent, alors parfois pour un téléphone portable, oui, pour un collier ou pour un argent qui suppose.
Je voulais ajouter quelque chose.
Je vous en prie.
Et il faut savoir que les enfants qui sont déjà dans les rues, ils utilisent la dissolution. C'est une matière qu'on utilise pour couler les chambres.
Et ils se droguent. Voilà. C'est avec vous qu'on termine cette émission. Merci beaucoup, Claude, pour votre témoignage. Merci à vous qui avez appelé et qui avez écrit. Restez sur VOA Afrique. J'ai été ravie de passer cette demi-heure avec vous. Je suis Anastasie Tudiège. À très bientôt sur VOA Afrique.